Ce matin, nous avons comme thème de la prédication « Vivre en chrétien dans la société » et nous poursuivons notre étude dans la première lettre de Pierre. Qu'est-ce qui distingue le chrétien dans sa façon de vivre en société ? Est-ce qu'on peut le reconnaître ? Est-ce qu'il est différent des autres personnes ? Prenons les cas qui ont agité l'opinion publique ces derniers temps. Est-ce qu'un chrétien, par exemple, peut s'associer à des causes qui sont liées à la justice sociale, comme par exemple celle défendue par certains gilets jaunes en allant à des manifestations qui ensuite dégénèrent dans des violences? Ou autre cas récent, des membres du gouvernement ont fait des amalgames ces dernières semaines en évoquant une prétendue dangerosité des évangéliques dans le cadre de la loi qui est discutée pour lutter contre le terrorisme. Faut-il intervenir dans les médias pour se défendre? Quelle est l'attitude juste à avoir dans la société? Est-ce que nous devons faire profil bas, nous retirer de toute forme d'engagement dans la société parce que simplement nous ne sommes pas de ce monde? Mais avec le risque de devenir finalement des chrétiens invisibles ou des chrétiens passifs qui privatisent leur foi et qui, finalement, s'assimile dans la société. Ou le chrétien devrait-il lutter contre les injustices qu'il perçoit et en... Nous allons le voir ce matin, dans la lecture que nous allons faire dans cette première épître de Pierre, que l'apôtre nous propose une autre voie. Une voie qui est fondée sur l'humilité et sur l'amour. Et je vous invite à écouter la lecture de ce jour, 1 Pierre, chapitre 2, les versets 11 à 17. 1 Pierre, chapitre 2, versets 11 à 17. Bien-aimés, je vous encourage, comme des exilés et des étrangers, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, pour que sur le point même où ils vous accusent de faire le mal, ils voient vos belles œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour de son intervention. À cause de Dieu, soumettez-vous à toute créature humaine, au roi qui est souverain, comme aux gouverneurs qui sont envoyés par lui pour faire justice contre ceux qui font le mal, mais qui est là pour louer ceux qui font le bien. La volonté de Dieu, en effet, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des gens déraisonnables. Soyez des hommes libres, sans faire de la liberté un voile pour couvrir la malfaisance. Soyez des esclaves de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Jusque-là la lecture. Je reviens à ma question initiale, comment vivre en tant que chrétien dans la société? Comment avoir des relations justes au sein d'une société qui rejette Dieu? On le voit dans la lecture que nous venons de faire que l'apôtre cherche à aider ses lecteurs à s'orienter. Il leur dit d'avoir une belle conduite, de faire le bien dans cette société. Vous savez, au premier siècle, les chrétiens à qui Pierre s'adresse sont très minoritaires dans la société. Ils sont mal connus. On les suspecte parfois de mal agir, d'avoir des intentions mauvaises. Leur valeur et peut-être leur mode de vie pouvait déranger, pouvait surprendre, alors on les suspecte. Et ce que Pierre nous écrit, et qui est valable pour ces chrétiens du 1er siècle, est valable de la même manière pour nous aujourd'hui au 21e siècle. Nous sommes nous aussi parfois suspectés, parce que nous avons des modes de vie différents, qui peuvent déranger, parce qu'ils interpellent. Nous sommes parfois très mal connus, et on nous suspecte de choses qui nous semblent très paradoxales. C'est pour ça que ce texte ce matin est intéressant pour nous. Pierre va développer deux grands axes dans la lecture que nous avons faite, deux grands axes sur notre présence au monde. Si j'essaie de les résumer brièvement pour que vous compreniez ce que je vais développer tout à l'heure, je dirais que le premier axe pour Pierre, c'est de dire pour nous chrétiens, nous sommes appelés à garder dans cette société une mentalité d'exilé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand un exilé arrive dans un pays, il cherche à comprendre le fonctionnement de ce pays et à s'y faire et à bien agir dans le monde dans lequel il arrive. Et de la même manière, nous devons nous aussi chercher à avoir un mode de vie qui rassure nos voisins, qui peuvent les amener à comprendre que nous leur voulons du bien. Et peut-être que si certains d'entre eux comprennent mal qui nous sommes, comprennent mal nos intentions, peut-être que certains d'entre eux cesseront de penser que nous faisons partie d'une secte dangereuse. Nous devons aussi être respectueux des principes de la République. Nous devons être polis dans nos rapports aux autres, même quand ils nous calomnient. Et peut-être qu'en voyant nos bonnes actions, notre bonne attitude, certains en viendront à s'interroger et à comprendre qu'ils feraient mieux eux aussi, d'une part de cesser d'avoir de mauvaises intentions à notre égard et d'autre part de révérer Dieu. Voilà en gros le développement de Pierre dans les versets 11 et 12. Et Pierre nous dit une deuxième chose par rapport à notre attitude dans la société. Ce sont les versets 13 à 17. Il nous parle de nos rapports avec ceux qui nous gouvernent. Il dit que les croyants doivent porter allégeance au Christ avant toute chose. Mais malgré cette allégeance au Christ en premier, ils sont appelés à être soumis aux autorités et à les honorer. En fait, les chrétiens doivent chercher à s'intégrer dans la société et dans les structures de la société. Ils doivent chercher à contribuer positivement au monde dans lequel ils se trouvent. Mais je crois lire dans ce texte aussi que cette soumission n'est pas inconditionnelle. Parce que le chrétien est fondamentalement un être libre et qu'il ne peut pas se laisser emprisonner dans des raisonnements d'État ou dans des lois qui seraient injustes et qui l'amèneraient à devoir agir contre sa conscience et contre le fait qu'il est citoyen du royaume de Dieu et membre du peuple de Dieu. Le chrétien est un être libre, mais pas libre pour faire le mal, libre pour suivre Dieu. Et donc, peut-être, à certaines occasions, prendre ses distances avec des normes injustes qui lui seraient imposées. Il est libre, libre pour exercer la justice, même si peut-être cela peut engendrer des problèmes pour lui dans sa vie personnelle, parce qu'il est peut-être amené à devoir pratiquer des gestes ou des actes de désobéissance civile. Certes, nous devons honorer nos autorités, nous devons les respecter, c'est l'enseignement de ce passage. Mais d'abord, Dieu passe avant toute chose. Voilà en gros les deux arguments que développe Pierre, je pourrais presque m'arrêter là si vous avez bien compris cela. Mais j'aimerais le développer un peu plus avant maintenant et revenir sur ce premier point et m'y attarder. Pierre commence en disant « Bien-aimés, je vous encourage à vivre comme des exilés et des étrangers. » Pierre sait qu'il va aborder des questions délicates, sensibles. Et il utilise beaucoup de délicatesse, beaucoup d'attention. « Bien-aimés, » dit-il à ses frères et ses sœurs en Christ. J'ai évoqué avec vous ce que vous êtes en Christ. J'ai évoqué votre identité en Christ. Et bien maintenant, j'aimerais évoquer avec vous votre rapport au monde. Pour que vous puissiez avoir la bonne attitude dans le monde, il faut d'abord savoir qui vous êtes en Christ. Et c'est ce que Pierre a fait jusque-là, dans tout ce que nous avons médité jusqu'à présent. Pierre leur dit qu'en tant que croyants, ces lecteurs ont d'autres valeurs, d'autres repères que ceux qui prévalent dans la société. Et donc, il est normal qu'ils puissent se sentir comme des étrangers dans leur propre pays. Un chrétien ne peut jamais être assimilé complètement à la société dans laquelle il est. Il a une identité propre qui est différente de son identité de citoyen d'une nation terrestre. Son identité vient de son appartenance au peuple de Dieu, un peuple qui est appelé à être saint. Dieu avait dit « Soyez saints comme je suis saint ». Et donc, si nous voulons être fidèles à notre identité chrétienne, il y aura forcément des moments où nous ne pouvons pas nous comporter exactement comme se comporte la société. Il faut parfois nager à contre-courant, même si cela peut engendrer des difficultés, même si cela peut engendrer des souffrances. Un chrétien doit parfois être prêt à souffrir pour suivre le Christ. Il doit être parfois prêt à souffrir pour porter ses valeurs à l'école, sur son lieu de travail, ou simplement de manière générale dans la société. Chers frères et sœurs, on ne peut pas vivre aujourd'hui au XXIe siècle autrement qu'en ayant une mentalité d'étranger et d'exilé dans ce monde. C'est la nature même du peuple de Dieu. En fait, on entre à cet égard dans une longue tradition, parce que c'est déjà l'appel que Dieu a adressé à Abraham, de quitter le pays dans lequel il était pour entrer dans un autre pays, le pays qu'il allait lui donner. Et Abraham n'a jamais été citoyen du pays que Dieu allait donner à ses descendants. Il est resté un étranger toute sa vie. En tant que père des croyants, il est resté un résident temporaire ici-bas sur la terre. Et il a ainsi montré la voie pour tous les croyants. Pour le peuple d'Israël, ça a été la même voie. Il a dû apprendre à vivre en exilé, en étranger, autant quand il était en Égypte que lorsqu'il a été exilé en Babylonie. Il n'a pas pu s'assimiler. Il a dû apprendre à ne pas s'assimiler, à être assimilé. Nous ne vivons pas, nous ne sommes pas pleinement assimilés à ce monde. Nous devons garder une mentalité de gens qui n'appartiennent pas à ce monde, même si nous y sommes impliqués. Notre style de vie doit nous distinguer. Mais on pourrait se demander qu'est-ce que ça veut dire concrètement vivre avec une mentalité d'exilé. Et vous vous souvenez peut-être de cette exhortation du prophète Jérémie qui s'adresse au peuple qui vient d'être exilé en Babylonie et qui leur dit comment ils doivent se comporter maintenant qu'ils savent qu'ils devront vivre pendant 70 ans en exil. Jérémie les appelle pas à se retirer de la société. Il leur dit « Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. » C'est exactement la pensée de l'apôtre Pierre. Investissez-vous dans la société dans laquelle vous êtes, parce que du bien-être de la société dépendra le vôtre aussi. Et c'est pour cela que Pierre dit deux choses dans ses versets 11 et 12. La première, il dit « Abstenez-vous des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. » En fait, en disant cela, Pierre dit « Mais ayez un comportement exemplaire. » Face au mépris que vous pouvez peut-être endurer, face aux calomnies dont vous êtes peut-être victime, face aux préjugés tenaces qui pèsent sur vous, vous auriez peut-être envie de répondre. Vous auriez peut-être envie de réagir. On dit du mal à votre propos, vous auriez peut-être envie de dire que vous allez attaquer, que vous allez critiquer aussi votre adversaire. Mais Pierre nous dit ça, c'est une réaction très humaine, beaucoup trop humaine. Ce sont les désirs de la chair, le désir de cette nature. Quand on nous fait du mal, naturellement, nous avons envie de réagir. Mais réagir de cette manière-là, c'est se laisser emporter par l'illusion que nous sommes maîtres de la situation, maîtres de notre destin. Et c'est s'éloigner de notre identité en Christ. Quand ce désir de réagir face au mal dont nous sommes peut-être victimes, quand ce désir est là, il y a une véritable guerre qui s'engage au fond de nous. Et plutôt que de vouloir entrer dans cette guerre, nous ferions mieux parfois de fuir. Abstenez-vous, dit Pierre. C'est-à-dire, retirez-vous de ce combat. Ce combat, il est quasiment perdu d'avance. Il est préférable parfois de ne pas vouloir répondre à l'injustice, quitte à ce que vous soyez traité injustement encore. Parce que ce combat est perdu d'avance, alors n'entrez pas dans ce combat. Mais comment réagir quand l'injustice est là? Et que nous aurions envie quand même de faire quelque chose. S'il y a un combat à mener, c'est celui d'un combat spirituel. C'est de laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie pour que notre comportement ne réagisse pas de manière naturelle, mais que nous puissions déborder d'amour, que nous puissions agir d'une manière exemplaire à l'égard d'autrui et même à l'égard de notre ennemi. Parce que Jésus a dit que nous devions même aimer nos ennemis. La bonne attitude, le bon combat, c'est de permettre que notre attitude soit empreinte de respect, même pour celui qui nous veut du mal. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations, écrit Pierre. Et les gens à qui il écrit sont sous tension dans cette société. Il y a des discriminations, il y a un peu de persécution ici ou là, en Asie mineure. Et Pierre pourtant les invite à être irréprochables. Aujourd'hui en France, un certain nombre de politiques et même des membres du gouvernement ont parfois des propos qui sont confus, qui sont suspicieux, qui pourraient même peut-être être qualifiés de diffamatoires à l'égard des chrétiens évangéliques. Certains propos récents ont pu jeter le trouble et le doute. En tout cas, ils ont contribué à semer la méfiance, en laissant par exemple entendre que les évangéliques seraient une menace pour la République ou qu'ils seraient une source de problèmes récurrents. Ce genre de propos est finalement nuisible, pas seulement aux évangéliques, mais même à tous les chrétiens. Et ce climat-là de suspicion amène ou peut amener le gouvernement à vouloir contrôler de plus en plus les églises dans ce qu'elles font, en imposant des mesures administratives, des contraintes qui deviennent telles que la liberté de culte peut même en être entravée. Mais ces phénomènes ne sont pas nouveaux en soi. Déjà dans l'Antiquité, l'historien latin Suétone parle à propos des croyances des chrétiens d'une superstition malfaisante. Déjà là, il y a de la calomnie. Il y a déjà là une attitude générale d'hostilité, de mépris. Et que répond Pierre face à cette attitude hostile? Il invite à ne pas surenchérir. Quand les gens des nations, dit-il, c'est-à-dire quand les païens, quand les incroyants, nous accusent de faire le mal, il ne faut pas surenchérir. Il vaut mieux chercher l'apaisement. Il vaut mieux avoir une attitude constructive pour essayer de faire tomber les préjugés, expliquer qui nous sommes, agir toujours correctement. Et peu à peu, on peut l'espérer, ces préjugés négatifs à l'égard des croyants vont tomber. Et peut-être ainsi, en agissant bien, on dépense des pensées malsaines, injustes à notre égard. Et peut-être même que certains se convertiront. Mais au plus tard, au jour du jugement dernier, nous dit Pierre, il parle du jour de la visite de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le jour de la visite de Dieu, c'est le jour du jugement. Au plus tard, lors de la visite de Dieu, les yeux des incroyants vont s'ouvrir. Ils seront ébahis de voir combien ils ont pu être faux dans leur jugement. Ils seront ébahis de voir les belles œuvres qu'ont été celles des croyants et qui ont été rendues possibles parce que c'est Dieu qui a permis cela. Et quand ils verront cela, Dieu sera glorifié. Nous sommes invités à faire des belles œuvres. Quelle que soit la situation dans laquelle on est, même si c'est compliqué, même si nous sommes dans une situation où nous sommes discriminés, nous sommes invités à faire des belles œuvres. Oh, bien sûr, quand on pense aux belles œuvres, on pense d'abord à donner à manger à celui qui a faim, à vêtir celui qui n'a rien, à visiter les malades, à pratiquer l'hospitalité. Mais là, très vite, on peut tomber dans des œuvres établies et même établir des structures qui font ces bonnes œuvres. Je crois que Pierre va au-delà de cela. Il ne s'agit pas de faire des bonnes œuvres pour se justifier soi-même, mais il s'agit simplement d'avoir une attitude juste là où nous sommes, là où le Seigneur nous place. Il s'agit de chercher le bien de la société dans laquelle nous sommes, de nous faire connaître positivement. Il n'y a rien de plus triste de voir des chrétiens qui parfois sont connus en mal dans la société parce qu'ils agissent mal dans la société et qu'ils produisent un contre-témoignage. Nous sommes appelés à être des gens de bien, des gens connus pour le bien qu'ils font autour d'eux. Et donc cela pose immanquablement la question de notre présence dans la société. Êtes-vous présent dans la société ? Comment vous insérez-vous dans la société ? Comment êtes-vous connu dans la société ? Je crois qu'il y a une invitation ici à nous faire connaître, à ne pas être repliés sur nous-mêmes, mais à être là pour être des gens de bien, des gens connus pour leurs belles œuvres et connus pour leurs beaux comportements. Le deuxième point que je veux aborder avec vous, c'est celui qui touche nos relations avec les autorités. C'est un point qui nous parle beaucoup de soumission. C'est un peu surprenant. Quand Pierre nous parle d'avoir une belle conduite, il nous invite d'abord à nous soumettre. Voilà comment nous pouvons avoir une belle conduite, en nous soumettant. En nous soumettant à qui ? La première chose qu'il dit au verset 13, c'est de nous soumettre à toute créature. Il s'agit d'accepter les gens dans la position qui est la leur dans la société. Il s'agit d'accepter que des personnes ont des pouvoirs sur nous, sont dans une structure qui leur donne du pouvoir sur nous, et de vivre avec cela. Dans la lecture que nous avons faite tout à l'heure, je n'ai pas lu exactement la traduction qui nous est proposée par la Nouvelle Bible Second, qui propose une traduction nous invitant à nous soumettre aux institutions établies par Dieu. Il me semble, après avoir réfléchi sur ce texte, qu'il est préférable de suivre l'interprétation de la Bible du Semeur. Soumettez-vous à toute créature humaine, je pense, nous dit ici l'apôtre Pierre. Et non pas à toute institution humaine. Parce que ce sont des hommes qui sont ensuite mentionnés dans la suite de ce verset. Bon, je n'entre pas dans les détails de l'exégèse. Ce qui nous est dit, c'est que nous devons nous soumettre aux autres. Et nous soumettre, ce n'est pas quelque chose de naturel. L'être humain, par nature, a tendance à vouloir posséder, à vouloir dominer. Or, se soumettre, et ici il est question d'une soumission volontaire, se soumettre, c'est accepter volontairement de se placer en dessous, de se mettre sous l'autorité de quelqu'un. Et donc, d'accepter que d'autres soient placés au-dessus de nous. Pour le dire autrement, Pierre nous invite à servir les autres et non pas à nous servir des autres. Néanmoins, ce qu'il dit est sans doute difficile à accepter. Comment pouvons-nous entendre que nous devons être soumis à toute créature humaine ? Pourquoi devrions-nous prendre la dernière place ? En fait, je crois qu'il nous faut comprendre ici deux choses. La première, c'est que peu avant, Pierre a dit que nous étions tous des prêtres. Et en qualité de prêtres, nous sommes invités à servir les autres. La deuxième chose que nous devons comprendre, c'est que se soumettre à toute créature humaine, c'est accepter les différents rôles, les différentes positions que Dieu a confiées aux uns et aux autres. C'est reconnaître aux autres ce qui leur revient. Et si quelqu'un est en situation d'autorité, il faut le respecter dans sa situation d'autorité, que ce soit au travail, que ce soit dans une société culturelle, que ce soit dans n'importe où, et que ce soit à l'égard du gouvernement et de tous ceux qui servent la République d'une manière ou d'une autre. D'emblée, Pierre amène la comparaison et parle du lien qu'il y a entre les croyants et l'empereur ou le roi. Ce n'est pas parce que l'empereur exercerait son autorité d'une manière abusive que les citoyens romains ou que les chrétiens qui sont là dans l'Empire pourraient être dispensés de lui être soumis. Ce n'est pas parce que l'empereur agirait mal qu'il faudrait appeler à la révolution pour renverser un dictateur ou quelqu'un qui règne de manière injuste. Ce n'est pas le langage du Nouveau Testament, ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu veut qu'il y ait un certain ordre dans le monde, avec différentes sphères d'autorité, et nous avons à respecter ces sphères d'autorité qui sont placées en dessus de nous. Pour vous aider à comprendre, prenons l'exemple de ce qui se passe dans ce que Dieu a voulu au moment de la création du monde. Allons dans le texte de la Genèse. Nous voyons que Dieu a institué un couple comme base, structure de base de la société. Et que dans ce couple, il y a un certain ordre qui est établi. Il y a un certain ordre dans les relations entre l'homme et la femme. Il y a un certain ordre dans les relations entre les parents et les enfants. Et reconnaître qu'il y a des rôles différents, ce n'est pas humiliant. Reconnaître qu'il y a une soumission qui est demandée dans cette structure familiale, ce n'est pas rabaissant. C'est Dieu l'a voulu ainsi. On peut se demander, parce que souvent dans les textes du Nouveau Testament et dans celui que nous allons aborder aussi par la suite, on le voit, les apôtres parlent de la famille, mais ils parlent aussi des relations entre les maîtres et les esclaves. Est-ce qu'il en va de même pour la relation entre un maître et son esclave? Est-ce que Dieu a voulu qu'il y ait des esclaves? De toute évidence, non. On ne retrouve pas de maître et d'esclave dans le jardin d'Éden. S'il y en a, c'est parce que l'homme est corrompu qu'il est pécheur. Donc, s'il y a des maîtres et des esclaves, c'est la preuve que le monde dans lequel on est un monde pécheur, imparfait. Et Pierre, malgré tout, demande aux esclaves, aux domestiques, d'être soumis à leur maître. Si je poursuis maintenant avec la question des autorités, on peut se poser aussi la question de savoir si Dieu, dès les origines, a voulu établir des autorités politiques ou si elles sont simplement le fruit de la chute et que nous devons composer avec. Et c'est vrai qu'on ne rencontre pas une structure d'autorité politique dans le texte de la Genèse. On n'y rencontre pas dans le jardin d'Éden. Et pourtant, on ne peut pas nier qu'il y a un lien entre l'autorité de Dieu sur toutes les créatures et l'autorité déléguée de Dieu à des autorités politiques pour gérer les créatures. Mais ce qu'on doit reconnaître, c'est que cette autorité politique est souvent corrompue. En tout cas, elle est très imparfaite. Et en tout cas, elle représente une image très imparfaite de la manière dont Dieu veut exercer son gouvernement sur les humains. Mais Dieu permet qu'il y ait des autorités qui gouvernent, parce que cela permet de garder une cohésion sociale, même si c'est très imparfait. Mais cela permet de limiter aussi l'extension du mal. S'il y avait l'anarchie complète, ce serait encore pire. Ces autorités sont là pour récompenser ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal. Nous devons accepter qu'il y ait des autorités qui soient là, qu'il y ait des gens qui sont placés au-dessus de nous, même si leur manière d'exercer leur gouvernement est très imparfait. La question peut se poser quand même de savoir jusqu'où nous devons obéissance à ces autorités. Est-ce que la soumission exige une obéissance aveugle, inconditionnelle à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui représentent l'État, au bras armé, celui de la force armée, des militaires, au bras armé, celui de la police? Devons-nous obéir à nos autorités humaines? Comme on obéirait à l'autorité de Dieu? Et on est ici sur une question très sensible, très délicate, où des réponses parfois différentes ont été apportées. Mais j'aimerais apporter deux éléments de réflexion. Le premier, c'est que, tout d'abord, le verbe qui est utilisé ici pour parler de subordination implique que c'est une subordination choisie, voulue, consentie, librement. C'est dans ce sens-là qu'il est presque toujours employé quand on le rencontre dans le Nouveau Testament. Et cela signifie que les chrétiens sont invités à choisir de se soumettre à ceux qui sont placés en dessus d'eux de manière volontaire, simplement pour respecter un certain ordre et permettre à la société de fonctionner, pour éviter l'anarchie. Mais l'apôtre Pierre ne demande pas aux chrétiens d'accepter de se soumettre à la méchanceté des autres, à la tyrannie des autres. Et ça, je crois que c'est important de le dire dans une société aujourd'hui et dans une période qui est façonnée par le mouvement MeToo, par exemple, où des femmes disent combien les hommes ont abusé de leur position pour les violenter, commettre des abus sexuels sur elles. C'est important de dire cela aussi, alors que le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, c'est ce que veut dire ce terme, alors que ce mouvement milite contre le racisme et les violences policières. L'apôtre Pierre, je répète, ne demande pas aux chrétiens d'accepter de se soumettre à la méchanceté des autres ou à leur tyrannie. La soumission dont il est question ici ne consiste pas à se laisser imposer des violences physiques ou morales, parce qu'on n'aurait pas le choix, ou parce que si on voulait se défendre, il faudrait utiliser la violence. Il ne s'agit pas de se laisser soumettre aux autres jusqu'à ce qu'ils aillent commettre l'irréparable, comme on le voit avec les guerres de gangs des jeunes actuellement et qui font aussi l'actualité des médias. La soumission à laquelle on est invité ici, c'est une soumission qui est librement consentie. Librement consentie. Elle procède d'une décision intérieure. Personne ne nous y contraint, si ce n'est l'Esprit-Saint. Si l'on se soumet, c'est à cause du Seigneur et à cause de personne d'autre. Et donc, quand Pierre demande aux croyants de se soumettre à toute créature humaine et qu'il prend l'exemple de l'empereur pour dire voilà ce qu'est une créature humaine, c'est intéressant parce qu'il nous montre que l'empereur est aussi une créature humaine et les chrétiens doivent aussi avoir du respect pour lui. Ce n'est pas parce qu'un empereur agirait mal, et il y a des empereurs romains qui ont très mal agi, ce n'est pas parce qu'un empereur réagirait mal que nous ne devons pas le respecter en tant que créature de Dieu. Mais en même temps, il n'est qu'une créature de Dieu, et rien de plus. Il ne possède pas la divinité, les chrétiens ne doivent pas s'agenouiller devant lui. L'empereur, bien sûr, c'est un souverain. Il doit être honoré dans la fonction qui est la sienne. Il doit être honoré parce que Dieu n'est pas anarchiste. Il veut qu'il y ait des gouvernants pour assumer l'ordre dans la société, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour cela que nous sommes invités à nous soumettre, à respecter les autorités qui sont là. C'est pour cela que nous sommes invités à faire le bien, dans l'espoir que ceux qui nous observent et qui agissent mal puissent être changés, transformés. Mais il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce que nous agissons bien que les autres vont automatiquement être transformés. Pierre en sait quelque chose. Il a été aux premières loges lors du jugement de Jésus. Et il a vu que celui qui est le parfait juste, malgré sa justice, cela n'a pas empêché qu'il soit crucifié sur une croix. Donc la belle conduite ne permet pas toujours d'échapper à la méchanceté humaine. Et dans ces cas-là, il faudra que nous sachions malgré tout demeurer fidèles dans notre foi. Deuxième élément de réponse que j'aimerais apporter quand je demande si nous devons obéir à nos autorités humaines, comment on obéirait à Dieu. Deuxième élément de réponse, c'est que j'ai envie de dire, mais cette obéissance aux autorités n'est pas inconditionnelle. On ne peut pas obéir aux autorités comme on obéirait à Dieu. Ce n'est pas de la même nature. Les structures politiques ne font pas partie de l'ordre de la rédemption. Elles sont entachées par le mal. Et Dieu permet que grâce à ses autorités, le mal ne prospère pas davantage, que ce ne soit pas la complète anarchie, que l'histoire puisse se continuer. Mais en même temps, il faut bien le reconnaître, nos gouvernants, les autorités politiques, offrent beaucoup de prise au mal. Elles peuvent devenir des structures d'oppression. Elles peuvent chercher leur intérêt propre et non plus l'intérêt des autres. Et encore une fois, les destinataires de la lettre de Paul souffrent à la fois globalement de la manière dont ils sont considérés dans la société, mais aussi de jugements injustes de la part des autorités. Mais les apôtres, Pierre, comme l'apôtre Paul, dénoncent cette tentation qui pourrait exister de vouloir changer les structures, de vouloir refuser les structures qui sont en place pour en faire émerger d'autres. L'Église n'a pas la vocation de changer les structures de la société. Le chrétien doit apprendre à vivre là où il est, dans l'environnement où il se trouve, avec les structures qui sont en place. Il ne doit pas attendre qu'il y ait un monde meilleur pour commencer à vivre sa vie chrétienne. C'est là où il est, malgré le monde très imparfait dans lequel il se trouve, qu'il doit apprendre à mener des belles actions. Mais j'ai même envie d'aller au-delà. Dieu demande que non seulement nous nous comportions bien, mais que nous puissions contribuer au développement et au bien-être de la société. C'est l'idée du shalom dans l'Ancien Testament. Que veut dire shalom ? C'est l'idée de la paix, mais plus que de la paix, d'un bien-être, d'une forme de bonne santé. Chercher le shalom, c'est chercher la bonne santé de la société. C'est vouloir que les citoyens puissent vivre en bonne harmonie. Et ainsi, même si nous sommes discriminés dans ce monde, nous devons apprendre à œuvrer au bien de la société, là où nous sommes, peut-être dans une position très modeste, mais dans cette position très modeste, nous devons faire le bien. Et pourtant, la loyauté a une limite. Il est dit dans notre texte que le gouverneur est appelé à approuver le bien et à châtier ce qui est mal. Le problème, c'est que comme le gouverneur n'est pas soumis à la loi de Dieu, qu'il ne croit pas forcément en Dieu, eh bien, le bien et le mal ne sont pas définis comme Dieu les définit. Ils découlent d'une pensée humaine, ils découlent peut-être d'un processus de la société. Or, le chrétien est d'abord soumis à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu, parce qu'il est serviteur de Dieu. Et faire le bien, parfois, ce n'est pas seulement obéir d'une manière aveugle aux autorités en nous soumettant à elles, mais parfois c'est prendre de la distance par rapport à quelque chose d'injuste qui nous est demandé. Ça, c'est la liberté qui est accordée aux croyants, comme nous en parle le verset 16. Le croyant doit garder cette liberté de faire le bien. Et parfois, de prendre des distances par rapport à des lois iniques qui pourraient exister. C'est comme cela que des croyants ont sauvé des juifs qui étaient menacés d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, ou qu'ils ont sauvé d'autres personnes aux frontières parce qu'ils ont mis l'amour du prochain en première ligne. C'est comme cela peut-être qu'aujourd'hui, nous devrions agir si Dieu met sur notre route des exilés, des gens sans papier qui seraient refusés, des réfugiés qui auraient été déboutés alors même que s'ils rentraient dans leur pays, ils seraient très... Mais l'État n'a pas toujours cru ce qui était raconté. Et du coup, il commet parfois des injustices dans ses jugements. Aimer son prochain comme soi-même, en fonction du contexte, c'est parfois aller au-devant de la désobéissance civile et aider quelqu'un parce que c'est un frère en humanité ou que c'est un frère en Christ, aider quelqu'un, même si la loi ne nous y autorise pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ont été jugés parce qu'ils ont accueilli des personnes qui étaient menacées dans leur intégrité. On est dans une société où nous pouvons parfois faire face à des gens qui sont méchants. Nous sommes invités à aimer. Et aimer, c'est refuser la vengeance. Aimer, c'est rechercher le bien de l'autre en tant qu'individu. Nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal. Nous devons apprendre à vivre dans les structures qui sont là. Même si elles sont injustes. Un jour, nous devrons rendre des comptes. Rendre des comptes devant le Seigneur. Si par notre comportement, des gens sont touchés, qu'ils se convertissent, alors la société commencera à changer, sans que nous ayons besoin de faire de révolution. Parce que ce ne sont pas les structures qui ont besoin d'être changées, ce sont les hommes. Si nous changeons les hommes, si le cœur des hommes est changé, le monde va changer. Et la conclusion tient dans ce verset 17, et je m'arrête là. Pierre dit, en conclusion, « Honorez tout le monde. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. » Et ce n'est pas par hasard que le roi vient en dernier. Il a sa place dans la société, le roi. Mais sa place ici est la dernière. Et surtout, il vient après Dieu. Alors que le Seigneur nous fasse la grâce d'être engagés dans cette société, de viser son bien, parce que de son bien dépend le nôtre, et qu'il nous fasse la grâce aussi de rester fidèles au fait d'être citoyens du royaume des cieux, qu'il nous fasse la grâce de vivre avec une mentalité d'exilé ici-bas, mais d'exilé engagé dans la société. Amen.